bien bonsoir chers auditeurs de Radio Axe. Ce soir, c'est Invitation au bonheur. Et ce soir, je reçois une invitée que je connais depuis quelques années, quelqu'un que je rencontre à Sartrouville, au marché quelquefois, mais quelqu'un avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, de voir des petites choses à faire ensemble autour de Femmes Cancer Espérance, son association. Et ce soir, je reçois donc
Carole Pratt.
Carole, merci d'être venue à mon invitation.
Merci Jean-Marie de ton invitation.
Invitation au bonheur. Ce soir, on va donc parler du bonheur.
Quel programme !
Eh oui. Et pour commencer, ton bonheur, il vient de la musique. Est-ce que tu peux nous parler de la musique et du bonheur ?
En fait, il vient de plusieurs choses. La musique, bien sûr, puisque j'ai une formation à la base de chanteuse classique. Et c'est vrai que c'est ma résilience, quel que soit le moment, quelles que soient les épreuves de la vie. Et lorsque j'ai créé cette association, effectivement, ça a été ma leitmotiv, en fait. Ça a été l'élément qui m'a porté tout au long de cette expérience. Voilà, expérience à travers la musique, à travers le chant et à travers des concerts aussi qui ont jalonné un petit peu ma vie.
Alors, quel est ton itinéraire musical ? Comment as-tu commencé ?
Alors, moi, je suis une passionnée de chant depuis l'âge de 9 ans où j'ai rencontré... j'ai écouté une émission qui s'appelait... je crois que c'était une émission montée par Eve Ruggieri sur les femmes. Et elle avait à l'époque lancé une émission sur Edith Piaf. Et à l'époque, j'avais 9 ans et je me suis dit, c'est extraordinaire de chanter comme ça. Et enfin, je me suis dit, tiens, un jour, je chanterai aussi bien qu'elle, si ce n'est mieux qu'elle. J'avais ce défi. Et la vie a fait que je suis montée à Paris pour des études. Et la première chose que j'ai faite, c'est frapper à la porte de l'Opéra de Paris en leur disant « je veux un professeur ». Donc ils m'ont rayonné en me disant « mais vous n'avez pas de formation de base, il faut auditionner ». Enfin bon. Et en fait, j'ai rencontré une chanteuse de l'Opéra qui s'appelle Monique Delassus, qui a été mon premier coach vocal. Et sur 3 ans de formation, elle m'a fait travailler différents répertoires, l'opéra, la mélodie et un petit peu l'oratorio. Et c'est à l'issue de ces 3 ans que j'ai pu auditionner en conservatoire et que j'ai pu rentrer dans la classe de Fusako Kondo du CRR de Paris. Ce qui m'a valu 6 ans d'études, des prix aussi de conservatoire et ensuite un coaching avec une autre chanteuse qui s'appelle Michèle Comment, qui est une grande soprano française. Et toutes ces années, en fait, ont débouché sur des concerts, des récitals et aussi des festivals, en parallèle d'un métier que j'avais gardé quand même par prudence. Donc voilà, c'est un itinéraire que j'ai monté, que j'ai nourri pendant des années. Ça a été ma résilience, sur tous les points de vue. Et surtout, ce qui était fabuleux, c'était de travailler avec des professionnels qui savaient de quoi il parlait, qui pouvait être sur scène à dépasser un orchestre, et ça c'est fabuleux. Et voilà, donc c'est des souvenirs extraordinaires où j'ai vécu des répétitions à l'opéra. À l'opéra, c'était l'opéra de Paris, Bastille, puisque à l'époque François Mitterrand avait basculé le groupe de chanteurs à Bastille et Garnier c'était la danse. Et je me souviens d'une expérience, enfin d'un événement un peu fou. À l'époque, il tournait les Troyens de Berlioz à l'opéra et le chef d'orchestre avait dit surtout aucun invité dans la scène, enfin dans l'opéra. Et je me souviens à l'époque, mon professeur m'avait fait rentrer, on était une dizaine cachés, et on rampait par terre à se dire « on va écouter l'opéra ». Et je me souviens en train de ramper par terre à écouter les 3 premières notes des 2 premiers actes, et c'était fabuleux, c'était magique, quoi. Enfin, je dis pas que pour écouter de la musique, faut aller se cacher, hein, l'opéra, mais voilà, on avait un petit peu dépassé les limites et on était une bonne dizaine à s'être faufilé.
Il y a du bonheur, il y a du plaisir.
Ah, c'était extraordinaire, super.
À vivre un moment caché comme ça.
Ah,
ouais,
non,
volé.
Voilà, c'était tout à fait ça.
Alors, comment on passe d'une passion pour Piaf au chant lyrique? On est quand même loin du chant lyrique avec Piaf.
Oui, mais bon, Tous les chanteurs classiques diront Piaf est un modèle. Hein. Ma prof du CRR de Paris me disait Piaf, c'est un modèle, ça restera toujours un modèle. Je veux dire, elle avait une tenue de voix, une tenue de chant qui était remarquable, remarquable. Et c'était une femme remarquable parce qu'elle a vécu des moments de vie complètement dramatiques. Hein. Quand on voit sa vie depuis l'enfant jusqu'à la fin, c'était une femme très perturbée, mais quelle générosité. Et je pense que quand on veut parfaire un art, il faut frapper la porte de professionnel. Voilà.
C'était
mon point de vue. C'était ma leçon. C'était ma leçon parce que j'étais enthousiaste à l'idée de voir des chanteurs dépasser un orchestre. Je dirais un orchestre, c'est des fonds énormes, sonores, extraordinaires. Et ces gens qui dépassent un orchestre, je me disais, mais est-ce que c'est possible?
Quand oui. Tu dis dépasser, ça veut dire prendre le pas sur l'orchestre, de devenir l'instrument principal de l'orchestre?
De devenir l'instrument principal et de dépasser vocalement, je veux dire, sur le plan sonore. Et ça, c'est l'objet d'une technique, c'est l'objet de travail sur les cordes vocales. Je veux dire, travailler et chanter sans micro, c'est quand même, faut avoir les tripes. Hein. Non seulement c'est une approche technique qui est exceptionnelle, mais aussi avoir un mental et une hygiène de vie fabuleuse. Voilà, quelqu'un qui veut être dans ce milieu-là, il ne fume pas, il ne boit pas, enfin voilà, il a une forme d'ascèse régulière, de fait, oui.
Tu parlais de Piaf et de toute cette douleur, et de résilience. Est-ce qu'il faut avoir aussi de la douleur pour arriver à sortir des choses comme ça de son corps?
Je pense que à ce niveau-là, en restant, je dirais quand même très humble, toute forme d'art amène à dépasser sa condition. Bien sûr, oui, oui, tout à fait. Parce que c'est un outil fabuleux qui amène les gens à vivre le bonheur et à rester autant qu'il soit possible dans la joie, malgré des situations dramatiques, voilà. Que ce soit la maladie ou une rupture ou un décès. Et Piaf l'a montré. Hein. Je me souviens d'une interview où le journaliste lui disait « Mais est-ce que vous êtes prête à refaire ce que vous avez vécu ?» Elle le disait « Mais oui, bien sûr. » Avec sans aucune hésitation. Et voilà, Piaf sera toujours ma meilleure amie, en fait, ou mon plus beau modèle. Même si Callas a eu quand même une vie qui a imprégné les oreilles, voilà, notre culture. Je pense à d'autres chanteuses, hein, Lucia Pop aussi, un grand modèle, un grand, grand modèle. Il y en a d'autres, hein, Vinevskaya, la femme de Rostropovitch, enfin, c'est des gens extraordinaires. Franchement, quand on prend la vie de Vinevskaya, qui était la femme de Rostropovitch, et elle a vécu la dictature en Russie, mais dans des conditions mais dramatiques, et cette femme a dépassé cette condition avec le chant. Je me dis, quel modèle quand même, c'est extraordinaire.
Quelle puissance,
mental.
De l'art aussi, c'est-à-dire qui efface les frontières,
oui,
qui efface
les douleurs. C'est là où on voit que l'art peut être aussi un outil fabuleux pour l'être humain, voilà, qui vit des choses dramatiques.
On a parlé de la musique, on peut aborder aussi ton engagement.
Oui, oui, oui. Alors, il est vrai que moi, j'ai travaillé en cancérologie pendant, je crois, ça fait 20 ans, où j'ai été pendant des années auprès d'enfants cancéreux. Donc, on peut dire que c'est une situation qui est, allez, je vais dire exceptionnelle, parce que tout le monde ne peut pas faire ça. Et je pense que le fait d'avoir cette capacité mentale, cette résilience et ce bagage artistique a fait que j'ai pu dépasser la souffrance des autres. Et j'ai pu pendant des années être à côté d'enfants atteints de leucémie, d'enfants atteints de tumeurs osseuses ou d'enfants atteints de tumeurs cérébrales. Donc c'est un milieu très difficile, voilà, parce qu'on n'est pas prêt, quel que soit l'âge, à vivre un cancer ou à se dire « bon, demain, je vais me faire greffer, je sais que la greffe de moelle, c'est 50% de réussite et 50% d'échec ». Donc voilà, l'être humain n'est pas prêt pour vivre ça. Et quand j'ai vu des gamins, voilà, c'était mes élèves, parce que j'ai été enseignante en cancéro, c'est vrai que quel que soit l'âge, C'est une expérience que j'ai vécue. Quel que soit l'âge, que ce soit des enfants de 6 ans, que ce soit des enfants de 12 ans ou des ados de 18, on n'est pas prêt à affronter un cancer, on n'est pas prêt à entendre l'idée que notre vie s'arrête dans quelques semaines ou des quelques mois parce que la greffe de moelle n'a pas fonctionné. Je parle de la greffe de moelle pour des gens qui étaient leucémiques et les chimios ne fonctionnaient pas, donc on passait à une greffe. Voilà, donc...
Et quelle leçon on peut tirer aussi quand on voit la puissance, la force de ces enfants, leur capacité à malgré tout tenir. On parlait de résilience tout à l'heure, cette puissance de la résilience. On avait une conversation avant de venir justement sur la résilience où je faisais référence au fait que pendant longtemps, on a cru que c'était quelque chose d'exceptionnel, que seules certaines personnes étaient capables de ressortir plus fort après avoir vécu des drames, des chocs, des maladies graves ou des traumatismes. Pour se rendre compte dernièrement, les dernières études démontrent que c'est plutôt l'inverse, c'est que nous sommes tous capables de résilience et que malheureusement certains n'ont pas cette capacité d'être plus fort à partir du moment où les situations où la vie ne nous a pas tués.
En fait, pour rejoindre ta question, je crois que, et pour rejoindre le thème de l'émission, c'est que quand on a vécu un cancer ou quand on vit dans la cancérologie, le bonheur, qui s'écrit B-O-N-H-E-U-R, peut s'écrire le ou la bonne heure. C'est-à-dire que bonheur devient la bonne heure, c'est-à-dire bonheur, B-O-N-E, plus loin, H-E-U-R-E. C'est-à-dire que chaque heure est une heure à vivre et que cette heure doit être bonne.
Alors pour avoir aussi échangé avec des personnes ayant vécu justement cette sale maladie qui peut toucher tout le monde et qui reste toujours une menace, beaucoup de personnes m'ont dit que finalement c'était pas une chance dans leur vie bien sûr, mais que c'était un moment important qui leur ont permis de mieux vivre le temps qui leur restait, de mieux savourer chaque moment et d'enfin commencer à vivre. Et que finalement, c'était aussi une belle leçon. Et qu'ils se rendaient compte qu'ils étaient aussi, enfin, qu'ils vivaient sans même s'en rendre compte jusqu'à présent. Et que finalement, cette maladie ou ce choc, ce traumatisme, cet accident qu'on peut avoir dans la vie va aussi transformer notre vie, pour nous amener vers finalement un autre bonheur. Un bonheur qu'on n'imaginait pas auparavant, mais qui nous ouvre vers de nouveaux champs. Et je vois le temps qui tourne, et le temps qui tourne, ça veut dire aussi que j'ai prévu de faire partager à nos auditeurs un titre de bonheur, un titre de ta playlist. Et donc, tu as choisi un extrait d'un opéra qui s'appelle Giannis Kiki, un opéra de Puccini. Et le titre que nous allons entendre, c'est la très grande, l'immense Maria Callas qui chante « O mio babino caro ».
Super.
Thank you.
Maria.
Super ce terrain.
Alors dis-moi, tu as forcément beaucoup de musique qui te transporte, qui t'émerveille, que tu redécouvres probablement même après les avoir écoutées 1000 fois. Pour quelle raison avoir choisi ce titre ?
En fait, O mio babbino caro est un best dans l'opéra, dans les récitals. Je crois qu'il n'y a pas une soprano qui n'a pas chanté cet air. Voilà, moi j'ai fait beaucoup de concerts et souvent je termine par O mio babbino caro parce qu'en fait c'est l'air qu'il ne faut jamais rater dans un concert parce que ça fait partie des... C'est culturel en fait. Donc quand ma prof de l'opéra me dit « qu'est-ce que tu as chanté en fin de concert ?» Je lui dis « bah, O mio babbino caro », elle me dit « oui, forcément ». Et en fait, c'est très simple. Il faut faire du chant, faire une technique pour le chanter, mais il est très bien écrit parce qu'il y a beaucoup, il y a des portamentos, c'est-à-dire qu'on passe la note sur des aigus, donc c'est de la bonne pâte, c'est de la bonne cuisine italienne. Et en fait, ce qui est sympa dans cet air, c'est qu'en fait, c'est un air d'une jeune fille qui est amoureuse d'un jeune homme, et elle va supplier son papa. Et donc, c'est très joyeux, en fait, comme mère. Donc, c'est un petit peu coquin, parce qu'en fait, elle va voir son papa, elle lui dit, s'il te plaît, je veux l'épouser. Et donc, c'est ça qui est extraordinaire, parce qu'on peut s'amuser, en fait, à fond, et ça dure 2 minutes, et on peut s'éclater sur scène pendant 2 minutes. Et même avec un piano et une réduction piano, ça les gens adorent. Parce que je sais que quand je le chante, en fait, j'attends la note jusqu'à la fin, je regarde le public et je m'éclate, en fait. Je m'éclate à chanter ça.
Quel bonheur. Alors, moi j'entendais beaucoup d'amour dans ce titre, dans cette chanson.
Oui, oui,
il y a beaucoup d'amour.
Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de séduction.
Aussi.
Oui, oui, parce qu'en fait, dans l'air, elle dit je vais me jeter dans l'Arno, qui est un fleuve. Donc, elle est très coquine, donc elle joue sur la séduction et voilà, c'est un air très intelligent. Alors, il faut savoir que Puccini adorait les femmes et souvent il écrit pour les femmes. Il a écrit des airs magnifiques, hein, que ce soit la bohème, que ce soit l'air de Musette, l'air de Mimi, voilà. Voilà, il avait cette capacité à aimer la femme, donc il servait la femme à travers la musique.
Et est-ce que l'opéra, au sens large, les opéras ont mis beaucoup plus les femmes en avant que les hommes ?
Ça, je pourrais pas vraiment le dire. Je sais pas, il y a des airs magnifiques, hein, dans les airs de ténor, les airs de basse. Voilà, chaque voix est exceptionnelle, hein. C'est pas parce qu'on est ténor qu'on est forcément une voix exceptionnelle. On peut être une basse grave et ça peut être magnifique, magnifique. Alors c'est vrai que l'être humain est plus sensible aux aigus parce que ça fait frémir, hein, parce que je pense que il y a un phénomène physiologique qui se met en place. Mais une belle voix de mezzo, qu'est-ce que c'est beau.
Je pense que les voix aiguës réveillent aussi l'enfant qui est en nous. Parce que un enfant, on lui parle avec une voix aiguë, c'est quelque chose qui va le calmer, qui va l'intéresser plus facilement qu'une voix grave.
Oui, enfin, la voix grave a des vertus, je dirais, thérapeutiques, hein, quand même.
Apaisante.
Apaisante.
Aussi, hein.
Apaisante.
Bon, si, petit garçon,
si je vous parle.
Je faisais un om,
oui.
Près de lui, ça le calmait comme ça.
Voilà. Si je vous parle en voix de poitrine, voilà, ça donne ça, c'est un peu plus grave. Ça peut être effrayant, mais ça peut être reposant pour l'auditoire. Donc, ne négligeons pas les voix de basse et de mezzo.
Et apprécions les voix graves, bien sûr. Hein.
Mmh.
Et bien là, peut-être on va inverser les rôles.
Oui.
Aurais-tu une question à me poser ? Est-ce que tu avais imaginé une question à me poser aujourd'hui ?
Quel est ton bonheur, Jean-Marie ?
Eh bien, il est déjà d'être ici, parce que... Je cultive vraiment le bonheur. C'est un sujet, moi, qui m'intéresse, qui me passionne et que je partage chaque fois que c'est possible. Il est tellement universel, il est tellement intemporel et en même temps, il est tellement fugace, difficile à attraper et à comprendre. Et mon bonheur, il est ici. Pourquoi ? Parce que j'ai compris aussi que le bonheur, il est dans l'instant présent. Et que si je me mets trop à réfléchir à ta question, je vais aller chercher dans le passé, des bonheurs du passé, même si c'est un passé récent. Aujourd'hui, j'ai enseigné toute la journée à deux classes, une le matin, une l'après-midi, et j'ai vécu des moments de bonheur dans ce partage, dans la transmission. Mais là, tout de suite, c'est le bonheur d'être là, avec quelqu'un que j'apprécie, avec Nordine qui est près de nous, qui nous habille cette émission, qui nous prend photo pour le Facebook, pour le site, et simplement vivre le moment présent, c'est pour moi un des plus grands enseignements de ce que j'ai appris dernièrement sur le bonheur. Je peux, à force de me projeter, oublier de vivre. Je peux, à force de vivre dans le passé, oublier de vivre. Et moi, j'ai pas envie d'oublier de vivre. Et donc, je vis l'instant présent.
Oui.
Et voilà, j'apprécie ce moment où, comme dans une séance de coaching, je sais pas ce qui va arriver, mais ce qui va arriver va être intéressant,
oui,
forcément.
J'aimerais rebondir à ce que tu dis, parce que j'ai souvent en tête cette réflexion d'une élève. Quand je travaillais en cancérologie pédiatrique, on recevait ce qu'on appelle les enfants douleurs. Ce qu'on appelle les enfants en douleur, c'est des enfants qui sont sur des grosses céphalées, c'est-à-dire des migraines qui occasionnent vomissements, perte de connaissance, ou des enfants qui étaient sur des maladies dégénératives. Et cet élève m'avait dit, vous savez madame, pour moi le plus grand bonheur c'est de voir les autres heureux. Et ça, je trouve ça fabuleux, parce qu'en fait elle se plongeait dans le sourire de la personne qui était en face, et ce simple sourire lui permettait elle-même d'être heureuse, parce qu'elle vivait des choses dramatiques, à être alitée, chambre dans le noir, donc vraiment des choses lourdes, très très lourdes. Et son plus beau bonheur, c'était de voir le bonheur des autres.
C'est une des recettes du bonheur. On sait que les personnes qui sont dans l'accompagnement, dans le soin des autres, les personnes qui s'investissent, comme tu le fais, dans des associations caritatives, qui sont dans l'humanitaire, dans l'humanisme, sont des personnes qui, c'est scientifique, prouvé, vont vivre plus longtemps en meilleure santé. Parce qu'en fait, l'altruisme, c'est bon pour la santé.
Oui,
c'est
non,
bon
mais...
pour le cerveau, et c'est bon pour le corps. Et quelquefois, même si on n'est pas bien, le fait de sourire fait que l'on va mieux. Je partage avec toi une citation que j'aime beaucoup de ce moine bouddhiste vietnamien qui vit en France, s'appelle Thich Nhat Hanh, et qui dit, eh bien, quelquefois c'est la joie qui amène le sourire, mais parfois c'est le sourire qui amène la joie. Donc n'oublions pas de sourire, même si la vie n'est pas belle, parce que à travers ce sourire, on va se mettre en connexion avec l'autre. Le bonheur, c'est aussi la relation à l'autre et la relation à soi, et on va se mettre aussi en joie. Alors il est temps maintenant de partager un petit conte de sagesse, et on n'a pas parlé de cette partie de ta vie, mais tu es aussi enseignante, enfin tu as parlé des enseignements que tu faisais dans le milieu médical, mais tu enseignes aussi à des élèves ordinaires, on va dire, sur d'autres sujets. Et donc moi j'ai trouvé un petit texte qui va certainement te parler, et qui s'appelle « L'élève devenu professeur ». Un vieil homme rencontre un jeune homme qui demande « Vous souvenez-vous de moi ?» Le vieil homme dit « Non ». Puis le jeune homme lui dit qu'il était son élève. Et l'enseignant demande « Mais que fais-tu ? Que fais-tu dans ta vie ?» Et le jeune homme répond « Eh bien, je suis devenu professeur. »« Oh, comme c'est bon, comme moi !» dit le vieil homme. « Eh bien oui. » Et en fait, je suis devenu professeur parce que vous m'avez inspiré à être comme vous. Le vieil homme, curieux, demande au jeune homme à quel moment il avait décidé de devenir professeur. Et le jeune homme lui raconte l'histoire suivante. Un jour, un de mes amis, également étudiant, est arrivé avec une belle montre neuve, et j'ai décidé que je la voulais, et je l'ai volée. Je l'ai sortie de sa poche. Peu de temps après, mon ami a remarqué le vol et s'est immédiatement plaint à notre professeur, qui était vous. Ensuite, vous êtes allé en classe. La montre de cet étudiant a été volée pendant les cours aujourd'hui. Celui qui l'a volée, veuillez la rendre. Mais je ne l'ai pas rendue parce que je ne voulais pas le faire. Ensuite, vous avez fermé la porte et nous avez dit à tous de nous lever, et que vous alliez un par un nous fouiller nos poches jusqu'à ce que la montre soit trouvée. Mais vous nous avez dit de fermer les yeux, car vous ne chercheriez que si nous avions tous les yeux fermés. Alors nous l'avons fait. Vous êtes allé de poche en poche, et quand vous avez fouillé ma poche, vous avez trouvé la montre et l'avez prise. Vous avez continué à fouiller les poches de tout le monde, et quand vous avez eu fini, vous avez dit « Ouvrez les yeux, Nous avons la montre. Vous ne m'avez rien dit. Vous n'avez jamais mentionné l'épisode. Vous n'avez jamais dit non plus qui avait volé la montre. Ce jour-là, vous avez sauvé ma dignité pour toujours. Ce fut le jour le plus honteux de ma vie. Mais c'est aussi le jour où ma dignité a été sauvée de ne pas devenir un voleur, une mauvaise personne. Vous n'avez jamais rien dit. Vous ne m'avez pas grondé ou attiré mon attention pour me donner une leçon de morale. J'ai reçu le message clairement. Et grâce à vous, j'ai compris ce qu'un vrai éducateur doit faire. Vous souvenez-vous de cet épisode, professeur ? Et le professeur répond. Je me souviens de la situation, de la montre volée que je cherchais chez tout le monde. Mais je ne me souvenais pas de toi, car moi aussi j'ai fermé les yeux en cherchant. C'est l'essence même de l'enseignement. Si pour corriger vous devez humilier, vous ne savez pas enseigner. Tu comprends pourquoi j'ai choisi ce conte. Et il est temps de clore cette émission. Invitation au bonheur avec Carole Pratt, qui était mon invitée ce soir. Je vais partager avec vous un de mes titres de ma propre plaisir du bonheur. Et moi, j'essaie de trouver quelque chose aussi de différents, mais en lien. Et pour moi, les divas sont un peu des sorcières. Elles nous amènent dans des mondes qui nous poussent à nous remettre en question, à vivre à d'autres situations, à imaginer. Et j'ai trouvé une version très joyeuse de Burn the Witch, donc Brûler la sorcière, de Radiohead, par le Fantasy Orchestra, qui est un drôle de système où 80 musiciens et chanteurs de part et d'autre de la Manche, entre l'Angleterre et la France, vont jouer ensemble et tous déguisés et revisités parmi des plus beaux morceaux du classique au rock. Donc je vous engage à regarder la vidéo de Fantasy Orchestra. Et je vais donc prendre congé de vous. C'était Invitation au bonheur sur Radio Axe par Jean-Marie Marcos. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Et d'ici là, soyez heureux.
Merci à toi, Jean-Marie.
Sing song of the six-pack. The amazing Frankie. Thank you, Frankie.